Chapitre 21. Germantown, samedi 27 décembre 1980. Armée de son Nikon à objectif 135 mm, Nathalie Preston photographia le paysage riche en contraste de la cité mourante. Les demeures de pierre, les maisons de briques anonymes, une banque conçue pour se fondre dans un ensemble architectural datant du XVIIIe siècle, des magasins d'antiquités, des antennes de l'armée du salut, des terrains vagues, des rues étroites et des passages, tous emplis de détritus. Nathalie avait chargé son appareil avec une pellicule noir et blanc plus X, s'accordant de longs temps de pause, pour chaque prise de vue, afin de faire ressortir la moindre lézarde de chaque mur. Il n'y avait aucune trace de Mélanie Fuller. Après avoir chargé son Nikon, elle avait rassemblé son courage et chargé l'automatique Lama calibre 32. Il se trouvait à présent au fond de son sac à main, dans un double fond en carton, sous un fouillis de caches et de films. La ville était beaucoup moins effrayante de jour. La veille au soir, complètement désorientée après son atterrissage nocturne, elle avait accepté de se faire conduire à Germantown par son compagnon de voyage, Jensen Luar. C'était soi-disant sur son chemin. Sa Mercedes grise était garée dans le parking longue durée de l'aéroport. Elle s'était d'abord félicitée d'avoir accepté son invitation. La ville était fort loin, ils avaient emprunté une voie express, puis un pont à deux niveaux qui les avait conduits au centre de Philadelphie, puis une autre autoroute encombrée retraversant la rivière, à moins qu'il ne s'agisse d'un autre cours d'eau, pour déboucher dans Germantown Avenue, une large artère sinueuse bordée de taudis et de boutiques vides. Lorsqu'ils étaient arrivés au cœur de Germantown, à l'hôtel qu'il lui avait recommandé, elle était pratiquement sûre qu'elle allait l'entendre dire « Et si je montais 5 minutes ?» ou « J'aimerais vous montrer ma maison, c'est tout près d'ici. » La première proposition était la plus probable. Il ne portait pas d'alliance, mais cela ne voulait pas dire grand-chose. En tout cas, Nathalie était sûre qu'il allait formuler une invitation quelconque qu'elle devrait décliner avec maladresse. Elle se trompait. Il se gara devant le vieil hôtel, l'aida à sortir ses bagages du coffre, lui souhaita bonne chance et s'en fut. Elle se demanda s'il n'était pas gay. Nathalie avait appelé Charleston avant 11 heures et laissé le numéro de téléphone de son hôtel et le numéro de sa chambre sur le répondeur de Rob. Elle s'était attendue à un appel après 11 heures, probablement pour lui suggérer de retourner à Saint-Louis, mais son espoir avait été déçu. Un peu vexée et luttant contre le sommeil, elle avait rappelé Charleston à 23h30 et interrogé le répondeur grâce au gadget fourni par Rob. Il n'avait laissé aucun message, et elle n'entendit que sa propre voix. Elle s'était endormie, intriguée et un peu effrayée. Elle se sentit mieux une fois le soleil levé. Il n'y avait toujours aucun message de Gentry, mais elle appela le Philadelphia Inquirer et réussit à arracher quelques informations au rédacteur en chef en se recommandant de son ami Ben Yates. Les circonstances exactes du massacre étaient encore tenues secrètes, mais on était sûr que certaines des 4 victimes, sinon toutes, avaient été décapitées. Le quartier général du Soul Brickyard se trouvait dans un foyer situé sur Bringhurst Street, à un peu plus d'un kilomètre de l'hôtel de Chelten Avenue où logeait Nathalie. Elle consulta l'annuaire, appela le foyer et se présenta comme une journaliste du Sun-Times. Un prêtre nommé Bill Woods lui accorda un entretien d'un quart d'heure à 3 heures de l'après-midi. Nathalie passa la journée à explorer Germantown, s'enfonçant de plus en plus profondément dans des ruelles sordides et photographiant tout ce qui se présentait à elle. L'endroit avait un charme étrange. Au nord et à l'ouest de Chelten Avenue se cramponnaient de vieilles demeures imposantes, aménagées en duplex, dans lesquelles des familles noires et blanches menaient un semblant d'existence bourgeoise. Tandis qu'à l'est, vers Bringhurst Street, on ne voyait que maisons éventrées, voitures abandonnées et regards désespérés. Mais il faisait soleil, et un groupe d'enfants l'a suivie quelque temps, la suppliant d'être prise en photo. Nathalie céda de bonne grâce. Un train ferrailla au-dessus de sa tête, une voix féminine hurla depuis un pas de porte, à un demi-pâté de maison de là, et les enfants s'égayèrent comme des feuilles mortes emportées par le vent. Aucun message de Rob à 10 heures, ni à midi, ni à 2 heures. Elle allait devoir attendre jusqu'à 11 heures du soir. Merde. À 3 heures, elle frappa à la porte d'un grand bâtiment datant des années 20 qui se dressait au milieu d'un pâté d'immeubles en ruines et d'entrepôts d'usines. Une partie de la grille en fer forgé de la galerie qui faisait le tour du bâtiment manquait à l'appel. Les fenêtres du deuxième étage étaient condamnées par des planches, qu'on avait récemment peintes en jaune vif. Le bâtiment semblait atteint de la jaunisse. Le révérend Bill Woods était un homme de race blanche au visage bosselé. Il s'assit avec elle dans un bureau du rez-de-chaussée, encombré de paperasse, et se plaignit du manque de subventions, du cauchemar bureaucratique que représentait l'administration d'une œuvre sociale comme Community House, et du manque de coopération des groupes de jeunes et de la communauté en général. Il refusait d'utiliser le mot « bande ». Nathalie aperçut des jeunes noirs qui allaient et venaient dans les couloirs, et entendit des cris et des rires en provenance du sous-sol et du premier étage. « Pourrais-je parler à un membre du groupe Soul Brickyard ?» demanda-t-elle. « Oh non !» se récria Woods. « Les garçons ne veulent parler à personne, sauf aux gens de la télévision. Ils aiment bien passer devant les caméras. »«
Est-ce qu'ils vivent ici ?»«
Grand Dieu, non ! Ils viennent souvent ici pour se réunir et s'amuser, c'est tout. »
« J'ai besoin de leur parler, » dit Nathalie en se levant.
« J'ai bien peur que ce soit... Hé, attendez un instant !» Nathalie traversa le couloir, ouvrit une porte et gravit un étroit escalier. Au premier étage, des jeunes noirs étaient rassemblés autour d'une table de billard ou affalés sur des matelas posés à même le sol. Il y avait des volets en acier métallique, et Nathalie compta 4 fusils à pompe posés près des fenêtres. Tout le monde se figea lorsqu'elle entra. Un homme d'une maigreur effroyable se pencha sur sa queue de billard et lui demanda sèchement « Qu'est-ce que tu veux, Radas ?»«
Je veux vous parler. »«
Bordel !» dit un jeune homme barbu étendu sur un matelas. « Écoutez-moi ça !»«
Je veux vous parler !»
la singea-t-il. « D'où tu débarques, beauté ?» D'un trou perdu du sud ?
Je vais vous interviewer, dit Nathalie, s'émerveillant du fait que ni sa voix ni ses jambes ne les trahit. Au sujet des meurtres.
Un lourd silence s'installa, jusqu'à devenir menaçant. Le jeune homme qui s'était le premier adressé à elle s'avança lentement. Il s'arrêta à 1 mètre de distance, pointa sa queue de billard, et en fit courir l'extrémité entre les pans ouverts de l'anorak de Nathalie, le long de son chemisier, s'arrêtant sur la boucle de sa ceinture. « Je vais t'accorder une interview, moi, Radas. Une interview en profondeur, si tu vois ce que je veux dire. » Nathalie se força à ne pas broncher. Elle écarta son icône, plongea la main dans la poche de son anorak, et en sortit un tirage en couleur de la diapo prise par M. Hodges.
« Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vu cette femme ?»
Le joueur de billard regarda la photo et fit signe d'approcher à un gamin qui ne devait pas avoir plus de 14 ans. Le gamin examina la photo à son tour, hocha la tête et retourna à son poste près de la fenêtre. « Va chercher Marvin !» ordonna sèchement le joueur de billard. « Mène-toi le cul !» Marvin Gale était un jeune homme de 19 ans, beau comme un dieu. Yeux bleus, longs cils, peau de la même nuance que celle de Nathalie, le meneur d'hommes né. Nathalie prit conscience de ce dernier point dès qu'il entra dans la pièce. Le centre d'intérêt de celle-ci se déplaça. La posture de toutes les personnes présentes s'altéra de façon subtile, et Marvin devint le centre. Durant 10 minutes, il exigea de savoir qui était la femme blanche. Durant 10 minutes, Nathalie lui proposa de le lui apprendre après qu'il lui aurait parlé des meurtres. Finalement, Marvin Gale sourit de toutes ses dents.
« Tu es sûr de ce que tu veux, bébé ?»«
Oui, »
dit Nathalie.
« Bébé. »
C'était ainsi que l'appelait Frédéric. Elle était un peu déconcertée d'entendre ce mot en ce lieu. Marvin claqua des mains.
« Leroy, Calvin, Monk, Louis, George, » dit-il. « Les autres, vous restez ici. »
Il y eut un cœur de protestation.
« Fermez vos gueules !» trancha Marvin. « On est encore en guerre, vous avez oublié ? Il y a quelqu'un qui veut nous faire la peau. Quand on saura qui est cette vieille carne, et ce qu'elle a à voir dans tout ça, on saura à qui s'en prendre. Pigé ?
Pigé.
Maintenant, fermez vos gueules. »
Ils retournèrent sur les matelas et autour de la table du billard. Il était 4 heures et le ciel s'assombrissait. Nathalie releva la fermeture à glissière de son anorak et attribua ses frissons au vent qui se levait. Ils prirent la direction du nord, le long de Bringhurst Street, marchant sous la voie ferrée aérienne, puis tournèrent à gauche dans une rue que Nathalie avait prise pour une impasse. Aucun réverbère ne l'éclairait. Il y avait des relents de neige dans l'air, ainsi qu'une odeur de suie et d'égout. Ils s'arrêtèrent à l'entrée d'une ruelle. Marvin se tourna vers le gamin de 14 ans.
« Raconte ce qui s'est passé, Monk. »
Le gamin enfonça ses mains dans ses poches et cracha en direction d'une parcelle envahie de briques et de mauvaises herbes.
« Mohamed, lui et les 3 autres, ils sont arrivés ici, tu vois. Je les suivais, mais j'étais pas encore là, tu vois. C'était Noël, quoi, et Mohamed et Toby, ils voulaient sniffer un peu de coke, tu vois. Ils sont partis sans moi pour aller en chercher chez le frère de Zig, tu vois, dans Pulaski Town, d'accord ? Mais moi, j'étais si défoncé que je les ai pas vus partir. Et je les ai suivis en courant, tu vois.
« Parle-lui du mec blanc, » dit Marvin.
« Ce salaud de blanc, il est sorti de la ruelle ici et il a fait un bras d'honneur à Mohamed. Il était à peu près là. Moi, j'étais un peu plus loin dans la rue et j'ai entendu Mohamed qui disait « Merde, t'as vu ça ? Un connard de blanc qui pointe son nez et qui emmerde Mohamed et ses 3 frères. »
« À quoi ressemblait-il ? » demanda Nathalie.
« La ferme, » fit sèchement Marvin. « C'est moi qui pose les questions. Dis-lui à quoi il ressemblait. »«
À un tas de merde !»
dit Monk en crachant de nouveau. Gardant les mains dans les poches, il s'essuya le menton d'un mouvement d'épaule.
« Ce salaud de blanc, on aurait dit qu'il s'était trempé dans la merde, tu vois ? Comme s'il avait mangé que des ordures pendant un an, mec. » Tu vois, les cheveux dégueulasses, comme s'il y avait des lianes qui lui pendaient sur la gueule, tu vois, balafré de partout, comme s'il avait saigné. Merde !»
Monk frissonna.
« Vous êtes sûr que c'était un blanc ?»
demanda Nathalie. Marvin lui lança un regard furibond, mais Monk éclata de rire et dit
« Ah oui, c'était un blanc !» C'est un foutu monstre blanc, cet enfoiré, sans blague.
Parle-lui de la serpe, dit Marvin. Monk hocha vivement la tête.
Ouais. Alors, ce mec blanc, il a couru le long de la ruelle. Mohamed, Toby et les autres, ils l'ont regardé comme s'il pigeait pas, tu vois. Et puis, Mohamed, il a dit, attrapez-le! Et ils ont tous foncé sur lui, tu vois. Ils avaient pas de flingue. Rien que leur couteau, tu vois, pas grave. Ils allaient le découper en morceaux, ce salaud de blanc.
Parle-lui de la serpe.
Ouais.
Les yeux de Monk se firent légèrement vitreux.
J'ai entendu du bruit et je suis venu jusqu'ici. J'ai pas couru, tu vois. Je me suis dit, merde, déjà que je suis repéré depuis le braquage du King Liquor, j'ai pas besoin qu'on m'accuse de meurtre, tu vois. Alors, je voulais juste regarder comment ça se passait. Mais c'était pas le mec blanc qui pissait du sang, tu piges ? Il avait cette grande serpe. Tu sais, comme dans les dessins animés.
Quel dessin animé ? Demanda Nathalie.
Merde, tu sais bien, le squelette avec un grand bâton et une serpe au bout, et aussi un sablier, tu vois ? Il vient chercher les morts dans les dessins animés, merde !
Une faux ? Dit Nathalie.
comme pour faucher les blés ?»«
Ouais, merde !»
dit Monk en pointant un doigt sur elle.
« Mais cet enfoiré de blanc, c'était Mohamed et les autres frères qu'il fauchait. Et il était rapide. Bordel qu'il était rapide. J'en avais assez vu. Et je me suis caché derrière ce truc. »
Il indiqua une poubelle ventrue.
« J'ai attendu qu'il ait fini, tu vois. Et quand il est parti, j'ai encore attendu un moment. J'avais pas besoin de cette merde, mec. Ensuite, quand il a fait jour, je suis allé tout raconter à Marvin, tu vois. »
Marvin se croisa les bras et regarda Nathalie. « T'en sais assez, bébé ?» Il faisait très sombre à présent. Au bout de la ruelle, Nathalie vit des lumières qui étaient sans doute celles de Germantown Avenue.
« Presque, » dit-elle. « Est-ce que le mec blanc les a tous tués ?»
Monk se prit à bras-le-corps et éclata de rire.
« Tu le sais bien, bordel ! Et il a pris tout son temps !» Il aimait ça. Est-ce qu'ils ont été décapités?
Hein? Elle veut dire, est-ce qu'il leur a coupé la tête? Expliqua Marvin. Raconte-lui, Monk.
Foutre oui qu'ils ont été décapités. Il leur a scié la tête avec sa serpe et avec sa pelle. Il a planté leur tête sur les parcs-mètres de l'avenue, tu vois?
Mon Dieu, dit Nathalie. Des flocons de neige lui criblaient le visage, gelant sur ses joues et sur ses cils.
« Et c'est pas tout !»
continua Monk.
« Son rire était si haché qu'on aurait dit un sanglot. Ce salaud leur a arraché le cœur, mec. Je crois bien qu'il les a tous mangés. »
Nathalie s'éloigna de la ruelle à reculons. Elle se retourna pour s'enfuir, ne vit autour d'elle que briques et ténèbres et se figea. Marvin la prit par le bras.
« Allez, bébé, tu rentres avec nous. Maintenant, il faut tout nous dire, tout nous raconter. »